Il est 7h30 à Paris, merci d'écouter RFI, 6h30 en temps universel. Et bonjour à vous Sébastien Duhamel.
Bonjour Gaëtan, bonjour à toutes, bonjour à tous.
À la une de votre journal, des événements sordides qui provoquent l'indignation de l'opinion sénégalaise.
Une jeune fille de 12 ans tué par le père de sa meilleure amie le soir du Nouvel An, un homme aujourd'hui entre les mains des forces de l'ordre qui dit avoir agi sous l'effet des stupéfiants. Les vœux de l'ex-premier ministre malien Choguel Maïga, actuellement dans la tourmente, visé par des accusations de malversation, il répond, vous l'entendrez. Cette prise importante pour les rebelles du M23 dans leur guerre contre l'armée congolaise. Au terme d'intenses combats, ils se sont emparés de la ville de Massissi sur le territoire qui porte le même nom au nord Kivu. L'inquiétude des sismologues autour de l'Éthiopie, 67 tremblements de terre enregistrés depuis septembre, ils se multiplient. Ce week-end encore, la terre a tremblé après le réveil d'un volcan. Un navire plein de nitrate d'ammonium sous surveillance renforcée au large de la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une substance hautement inflammable sur un cargo soupçonné d'avarie. La rentrée scolaire demain au Kenya et cette question: combien des internats fermés le mois dernier pour mesures de sécurité pourront rouvrir leurs portes? Vaste question. Et puis le sport, bien sûr, on fera un point sur la 4e journée de groupe en Ligue des Champions.
Et c'est donc un fait divers effroyable qui choque le Sénégal.
Le meurtre d'une jeune fille de 12 ans dans la nuit du Nouvel An, une affaire dans laquelle, je vous le disais, un homme a déjà été interpellé. Il dit avoir agi sous l'emprise de drogue et doit de nouveau être présenté au procureur de la République demain, lundi. À Dakar, la correspondance de Biraïm Touré.
Elle s'appelait Souadou Sow. Son présumé meurtrier lui était très familier. C'est le papa de sa meilleure amie âgée comme elle d'à peine 12 ans. Souadou a été étranglé alors qu'elle revenait de l'échoppe du coin pour ramener des cigarettes à son tonton, comme demandé par ce dernier. El Hadj Modou Fall, le présumé meurtrier, a profité de cet instant pour lui ôter la vie, selon le commissaire de police de Malika, dans la banlieue de Dakar où les faits se sont déroulés. La chef de la police de la localité, le commissaire Adia Kumbendiaï, révèle que dès la première audition, le présumé meurtrier a avoué son forfait tout en niant une tentative de viol. Une autopsie a été demandée. El Hadj Modou Fall, âgé d'une trentaine d'années, sera encore présenté au procureur ce lundi après un premier face-à-face vendredi dernier. Plusieurs associations de défense des droits de l'homme sont montés au créneau pour condamner cet acte et la ministre sénégalaise de la famille a demandé à la justice d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Biraïm Touré, Dakar, RFI.
L'émoi également au Tchad où un sit-in était organisé hier, Sébastien, dans la capitale N'Djamena.
Oui, pour dénoncer le viol collectif d'une mineure de 17 ans survenue là aussi la nuit du Nouvel An. La victime rentrait chez elle après avoir passé la soirée au festival Dari. Elle a été agressée par plusieurs hommes. Un viol collectif qui émeut l'opinion tchadienne et provoque la colère des mouvements féministes qui dénoncent une culture du viol persistante dans le pays.
Une sortie remarquée maintenant au Mali.
Limogé en novembre dernier, après avoir critiqué la junte, actuellement visée par des accusations de malversation, à Bamako, l'ex-premier ministre Choguel Maïga a présenté ses vœux à ses militants vendredi. L'occasion pour lui de répondre aux accusations, justement, et d'adresser plusieurs messages à la junte également. Serge Daniel l'a écouté pour nous.
Je voudrais souhaiter à tout le monde très bonne et heureuse année 2025.
Les premiers mots pour présenter ses vœux aux militants venus à sa rencontre et Choguel Maïga répond aux articles de presse qui, se basant sur un rapport du vérificateur général, révèle qu'il est pointé du doigt dans des irrégularités financières.
Est-ce que quelqu'un manque de jugeote jusqu'à penser qu'un premier ministre qui a fait près de 4 ans, il n'a volé que 35 millions?
L'ancien premier ministre malien dénonce ensuite un acharnement contre certains de ses militants. Sans nommément citer les auteurs, il prévient.
Il faut éviter les abus. Tout pouvoir qui tombe dans les abus, c'est sa fin. On ne peut pas gouverner un peuple par la peur. Même si on met tout le monde en prison, il faut gouverner par la vertu. Tout homme politique qui exerce la peur et la terreur sur les gens, il finira toujours mal.
A-t-il été loin dans la critique? Il apporte subitement son soutien à la junte malienne.
Et personne ne va m'amener à dénigrer les militaires. C'est que sans eux, en ce moment précis, on n'allait jamais faire aboutir notre combat.
Choguel Maïga ne le cache pas, il sera de plus en plus présent sur la scène politique locale.
De nombreux habitants forcés de fuir une nouvelle fois dans l'est de la RDC.
Oui, car les rebelles du M23, après avoir fait sauter un verrou avant-hier, la ville de Katalé dans l'est, eh bien, ces rebelles ont poursuivi leur avancée hier pour s'emparer de Massissi, principale ville du territoire qui porte son nom au nord Kivu. Un point stratégique à moins de 80 km du chef-lieu provincial Goma. des événements sur lesquels revient pour nous ce matin notre correspondant sur place, Héritier Baraka.
La prise de Massissi Centre est intervenue hier en début d'après-midi après d'intenses combats entre les FARDC appuyés par les Wazalendo et les rebelles du M23. Dans la matinée, les combats se sont concentrés dans deux autres localités, Luchebere et Karongole, avant de se terminer dans les chefs-lieux du territoire. Cet habitant a vécu l'avancée des rebelles.
Depuis 10 heures.
Il y a eu des affrontements entre le M23 et les FARDC ici chez nous à Luchebere, depuis 10 heures et jusqu'à 12h30. Finalement, les Wazalendo et les FARDC se sont repliés et le M23 a pris Luchebere et après ils sont descendus à Massissi.
La chute de cette agglomération, centre administratif local, est confirmée par des sources sécuritaires et hospitalières. Télésphore Mitondeke, rapporteur de la société civile, redoute une catastrophe à la suite du déplacement massif des populations.
Il y a une forte partie de la population qui a pris diverses directions. Il y en a celle, même parmi la population, qui a choisi la direction de certaines agglomérations de Walikale.
Si l'air compte X, les rebelles du M23 ont revendiqué la prise de Massissi Centre. L'armée congolaise n'a pas encore réagi à ces nouvelles offensives. Héritier Baraka, Goma, RFI.
La RDC sur le champ économique maintenant. Les autorités annoncent qu'elles vont doubler le montant du SMIG.
Le salaire minimum interprofessionnel garanti, il passera de 2,50 $ à 5 $ à partir du 1er février. Certains syndicats du secteur public se félicitent de cette nouvelle, mais font tout de même part de leur inquiétude quant à l'application, car la loi de finances 2025 ne prévoyait pas cette augmentation.
Il y a manifestement de quoi inquiéter les sismologues, la terre tremble de plus en plus en Éthiopie.
Et ce week-end encore, séisme ayant provoqué l'évacuation de plusieurs milliers de personnes. C'est l'activité volcanique de la région qui serait en cause. Les secousses se multiplient ainsi ces derniers mois, se concentrant autour des régions Afar, de l'Oromia et en Amara également, Lisa Fabian.
Depuis le mois de septembre, au moins 67 tremblements de terre ont été enregistrés autour de la région d'Awash Fantale, en plein cœur du rift éthiopien où l'activité sismique est l'une des plus intenses au monde. Mohamed Hussein est à la tête de la commission de gestion des risques et des catastrophes en région Afar.
Ces phénomènes inquiètent de plus en plus les gens car la force des secousses ne fait qu'augmenter. Pour nous, la situation est alarmante et nous appelons les habitants à la prudence.
L'entrée en activité d'un volcan vendredi soir a fait monter l'inquiétude dans la région. Le cratère du Mont Dauphin a craché pendant quelques heures un mélange de gaz, de pierre et de terre à forte pression. Environ 2000 personnes ont déjà trouvé refuge dans les abris ouverts par les autorités éthiopiennes, alors que des experts ont été déployés dans la zone pour évaluer les dégâts.
Les gens étaient plutôt réticents à l'idée de quitter leur village, mais certaines maisons se sont effondrées, des écoles, des centres de santé ont aussi été endommagés. Donc nous regroupons les personnes affectées dans des logements temporaires dans la ville d'Awash et aux alentours.
Jusqu'à 80 000 personnes pourraient être affectées par ces activités sismiques et volcaniques accrues selon un communiqué des autorités éthiopiennes.
C'est une substance hautement inflammable que transporte ce navire actuellement sous surveillance renforcée au large de la Côte d'Ivoire.
Du nitrate d'ammonium qui fut à l'origine de drames déjà sous d'autres cieux. Présent ici sur un cargo soupçonné d'avarie, il s'est ainsi vu interdire l'accès au port autonome d'Abidjan jusqu'à nouvel ordre. Avec ses 180 mètres de long, 30 mètres de large. Le navire mouille donc à environ 22 km des côtes, soit en dehors des eaux territoriales ivoiriennes. Précision, Abdulaziz Diallo.
Le navire Zimrida, arrivé en rade extérieure d'Abidjan le 30 décembre, transporte 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, dont 3 000 tonnes destinées à la Côte d'Ivoire. Prévu pour accoster ce lundi, il reste immobilisé après qu'une alerte a signalé une possible avarie de la cargaison. Dans un communiqué, les autorités portuaires ont ordonné que le navire reste hors des eaux ivoiriennes en attendant de nouvelles décisions. Une réunion d'urgence est prévue ce lundi pour, je cite, « un examen approfondi du sujet ». L'ampleur de la cargaison suscite de vives préoccupations. Elle représente cette fois le volume du nitrate d'ammonium à l'origine de l'explosion du port de Beyrouth. En 2020, bien que le nitrate d'ammonium soit largement utilisé dans l'agriculture comme engrais, il devient extrêmement dangereux en cas de mauvaise manipulation ou de dégradation. Pour le docteur Souleymane Cissé, environnementaliste, les risques sont réels. Lorsque le nitrate d'ammonium est avarié, il devient instable et peut s'enflammer. Cela peut libérer d'importantes quantités de gaz toxiques et de particules fines dans l'atmosphère, ce qui constitue un danger majeur pour la santé humaine. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Il est 6h40 à Nouakchott. Les conditions d'entrée en Mauritanie changent à partir de ce dimanche.
Eh oui, les ressortissants étrangers qui sont soumis à l'obligation de visa doivent désormais impérativement obtenir un visa électronique avant d'embarquer. Et ces demandes de visa électronique, notons-le, se font exclusivement sur le site internet de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés.
Les autorités kényanes leur avaient donné un mois pour se mettre aux normes.
Quelques 350 internats fermés, le temps de faire des travaux au nom de la sécurité. Une mesure qui avait été décidée après l'incendie d'un établissement scolaire dans le centre du pays ayant tué plus de 20 enfants. Mais aujourd'hui, à la veille de la rentrée scolaire, combien de ces établissements sont finalement prêts à rouvrir leurs portes? Eh bien, il semble difficile de répondre à cette question, Gaëlle Alex.
Pour le gouvernement kényan, il n'y a pas de compromis possible. Les internats qui ne respectent pas les normes de sécurité resteront fermés jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'a annoncé cette semaine le directeur de cabinet du ministère de l'Éducation, Julius Ogamba, ajoutant que tous les efforts étaient fournis pour assurer un retour à l'école dans les meilleures conditions. Le ministère de l'Éducation a néanmoins été incapable de fournir un chiffre précis du nombre d'internats qui restent fermés. L'Association nationale des parents d'élèves soutient cette décision gouvernementale. On ne peut pas jouer avec la vie de nos enfants, concède son président Silas David Obuatsa. Néanmoins, le flou de la situation inquiète. La question des frais de transfert des élèves qui ne pourront rejoindre leur établissement initial génère notamment des préoccupations. Les parents ont déjà du mal à joindre les deux bouts, poursuit Silas David Obuatsa. Il y a 3 semaines, l'Association des écoles privées du Kenya s'était engagée à ce que les établissements fermés soient remis aux normes pour la rentrée. Contactée par RFI, elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
Un mot maintenant sur ce choc, Sébastien, pour les millions de Zoulous en Afrique du Sud.
Leur roi, Missou Zoulou, Kwazeli Tini, demande le divorce avec l'une de ses épouses. Un acte pourtant tabou jusqu'à présent au sein de la royauté Zoulou. Alors que le roi a pris une 3e épouse l'an dernier, cette annonce est une surprise.
Et puis c'est le week-end, alors direction les terrains de foot du continent.
Oui, avec la 4e journée des phases de groupe en Ligue des Champions. 4 matchs étaient à l'affiche hier. Dans le groupe C notamment, le stade d'Abidjan a été dominé 3-0 à Johannesburg par les Orlando Pirates. Les Mamelodi Sundowns battus de leur côté par le Raja Casablanca 1-0 et en ayant fini à 9. Et puis deux clubs de RDC plutôt mal partis hein, pour leur qualification. Le tout-puissant Mazembe défait en Tanzanie, battu 3-1 chez les Young Africans. Et puis Maniema, battu 2-0 sur la pelouse des Marocains de l'AS Far. Un score obtenu ici pour Maniema dès la pause, sans réelle possibilité de pouvoir se relancer ensuite. C'est ce que nous explique leur entraîneur, Papi Kimoto.
On a mal débuté la partie. On a encaissé tout. Ça a chamboulé un peu nos points. Et à la fin de la première période, les gardiens ont commis une erreur. Ce sont des choses qui arrivent au football. Mais en deuxième période, on a changer l'animation, ça a été beaucoup mieux, mais bon, on n'avait pas la chance aujourd'hui. Félicitations à l'équipe qui est gagnante. Et même avec la victoire d'aujourd'hui, Far n'est pas assez d'être qualifié. Nous, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et on ne va pas baisser le bras. On va encore aller chercher à battre Mamelodi. Ce qui n'est pas facile, mais on va le faire, on va essayer.
Papi Kimoto, l'entraîneur de Maniema. Et notons, Gaëtan, 2 autres matchs à suivre aujourd'hui en Ligue des Champions. Les Égyptiens de Pyramids contre l'Espérance de Tunis, notamment, et puis les Angolais de Sagrada Esperanza qui seront face aux Maliens de Djoliba. J'ajoute également que ça joue, bien sûr, ce week-end pour la Coupe de la Confédération, Gaëtan. Mais tout ça, si ça vous intéresse, c'est à découvrir sur Internet, évidemment, une seule adresse, rfi.fr.
Et puis dans le journal des sports aussi avec Christophe Diremusan, ce sera après le journal de 7h30 en temps universel. Merci Sébastien Duhamel. Reportage à suivre au Maroc à la rencontre.